Et à tous, que la grâce et la paix de Dieu le Père et de Jésus-Christ soient sur nous. Et nous allons le glorifier en ouvrant la parole de Dieu. Le premier verset, je vais vous lire deux versets pour mettre en marche mon message. Le premier se trouve dans Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome 28, verset 13. Voilà ce qu'il dit ce verset. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Le deuxième verset se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 1 et 2. Voilà ce qu'il dit Paul aux Corinthiens, et à nous, bien sûr. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Le titre de mon message, c'est « Êtes-vous un chrétien perdant ou gagnant ?» Dans Deutéronome, le Seigneur, il dit au peuple d'Israël, et encore une fois, à nous, il nous dit « Je ferai de toi la tête et non la queue. » C'est-à-dire, je ferai de toi un gagnant et pas un perdant. Comment est-ce que le Seigneur il peut faire là? Il continue le verset, mais à une seule et unique condition, en obéissant et appliquant ses commandements. Dans Corinthiens, Paul, encore lui, il parle à l'église de Corinthe. Il dit, ce n'est pas comme des hommes spirituels, des hommes mûrs, que j'ai pu vous parler, mais comme des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Oui, un chrétien, il peut être un perdant ou un gagnant. Il est gagnant s'il observe les commandements de Dieu. En perdant, c'est lorsque il n'observe pas les commandements de Dieu. Et ce matin, je vais vous parler de deux exemples dans la Bible qui montrent exactement ce que c'est un chrétien gagnant et un chrétien perdant. Et par ces exemples-là, nous pouvons le méditer et voir en quoi nous sommes des gagnants et en quoi nous sommes des perdants. On va commencer par les perdants. Normalement, on ne doit pas être perdant parce qu'on a Jésus-Christ dans notre cœur. C'est celui qui a triomphé de la mort. C'est celui qui a tout pouvoir. C'est celui qui nous donne tout moyen de vaincre et de passer tous les obstacles. Le premier personnage, c'est Samson. Vous connaissez tous. Samson était un personnage, aux yeux de Dieu, il était perdant. Mais aux yeux du monde, il était gagnant. Imaginez-vous, naissance miraculeuse, parce qu'il est venu de Dieu. Il avait des parents pieux, et il avait une force exceptionnelle. Il était voué à l'Éternel, il était nazaréen, donc il avait tout pour être un gagnant. Mais aux yeux de Dieu, c'était un perdant. Mais gagnant pour le monde. Mais le Seigneur Jésus, il est clair, n'est-ce pas? À que servirait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est ce qui compte le plus c'est l'âme. C'est l'âme. Samson, il a terminé misérablement sa vie, aveugle et esclave. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était un perdant? Mais c'était un chrétien, c'était un homme de Dieu, mais c'était un perdant. Parce qu'un jour comme nous, un jour, si nous avons Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons l'assurance éternelle. Mais bien sûr, nous pouvons faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et ces choses-là, Dieu, il va nous les juger. Mais nous sommes sauvés. Nous allons participer tous à ce tribunal de Christ où nos œuvres, elles seront jugées. Il y en a beaucoup qui vont pleurer et d'autres qui vont se réjouir. Mais nous sommes sauvés. Déjà, celui qui se trouve devant le tribunal de Christ, il est sauvé. Mais c'est là que Dieu juge nos offres. Est-ce que nous avons été gagnants ou nous avons été perdants? Si on est perdant, on ne recevrait pas des récompenses. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il était dans cet état misérable? La première chose qu'on voit en Samson, on peut le lire dans Juges 16, le verset 28. Vous savez que Samson, c'était quelqu'un qui s'est confié beaucoup dans la chair. Alors, vous connaissez pourquoi il est tombé, hein, la fameuse Dalila, ou Dalida, non, pas Dalida, non, à ne pas confondre avec Dalida. voilà, il est tombé dans cette chose qui, malheureusement, on tombe très souvent. Il a été mené en esclave et aveugle. Et alors, avant de mourir, il a été mené dans un cirque pour amuser la platée, comme on dit. Et c'est là qu'il lui a dit, un jeune homme, mais regardons chapitre 16, verset 28. C'était la maison, il était rempli d'hommes et de femmes, de tous les princes des Philistins. Alors, verset 28, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et on voit que c'était un perdant. Pourquoi? Parce que ici, c'est la seule fois, vous pouvez lire toute son histoire, c'est la seule fois où Samson, il prie. La seule fois. Et pourtant, c'était un Nazaréen. C'est-à-dire que sa vie, elle était vouée à l'Éternel. Mais ici, c'est la seule fois où il prie. Il prie lorsqu'il se trouve en difficulté. Et combien de fois ça nous arrive, même à des chrétiens, de prier seulement dans les difficultés. En dehors aussi, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils se tournent vers Dieu seulement lorsqu'il y a des difficultés. Non, il faut se tourner vers Dieu chaque moment. Si nous analysons nos actes, nos difficultés, nos souffrances, nous allons nous apercevoir que ces souffrances, ces peines, ils viennent parce que nous n'avons pas prié, parce que nous n'avons pas mis notre vie entre les mains de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Vous savez, hein, vous ne pouvez pas rouler sans essence. Hein. Vous ne pouvez pas rouler, travailler sans manger. Ou sinon, vous ne pouvez pas faire d'échecs s'il n'y a pas d'argent. Et ainsi, on ne peut pas vivre une vie chrétienne si on ne prie pas. Il nous est dit que la prière, c'est l'âme d'une église, c'est l'âme d'un chrétien. Si on ne prie pas, on n'a pas de vie. Voilà pourquoi on vous exhorte, comme l'a fait le frère Alex, à prier, à participer aux réunions de prière. Car on ne prie pas seulement pour nous, mais on prie pour les autres. Paul, il a dit, priez les uns pour les autres. Lui, il n'a prié qu'une seule fois. Et lorsqu'il a fait, parce qu'il s'est trouvé, il a dit, j'ai prié Seigneur pour venger mes deux yeux. Ce n'est pas une bonne occasion de prier Dieu. Dieu, il a dit, à moi la colère. Si nous avons différent ou autre chose, nous devons remettre tout ça entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi lui, il était un perdant. Et aussi, il avait un esprit mauvais. Mauvais. Son cœur, il était très, très, très éloigné de Dieu. Il savait ce qu'il était. Il connaissait la force qui était en lui, mais il l'utilisait que pour sa propre gloire. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre aux yeux de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et nous devons pratiquer cet amour, même et surtout vis-à-vis de nos ennemis. Parce que si quelqu'un, il est mon ami, je l'aime automatiquement. Mais s'il est mon ennemi, normalement, on ne doit pas l'aimer. Mais nous sommes des chrétiens. Dieu a répandu dans nos cœurs son amour, sa grâce, sa miséricorde. Et nous devons aimer. Aimez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui... C'est ça le message que les gens, ils ont complètement appris par Jésus-Christ. Parce qu'ils ne parlaient pas comme les autres. Bénissez vos ennemis. On ne fait pas ça. On le maudit, nos ennemis. Mais Jésus, il a dit, bénissez. Bénissez nos ennemis. Autre chose qu'il avait, Samson, qu'il était un mauvais, un perdant. Mais encore une fois, c'est un chrétien, c'est un chrétien charnel. On vit cette vie, nous, en tant que chrétiens, on la vit aussi. Et il avait quelque chose, regardez dans le chapitre 14. Je vous ai dit, il venait d'une famille pieuse, hein, d'une nation. Il connaissait l'Éternel, il connaissait la loi de Dieu. Mais regardez, chapitre 14, toujours dans Juges, versets 1 et 3. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Voilà. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères ? Et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont en circoncis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi. » car elle me plaît. Pourquoi il était perdant? Car il convoitait des richesses. Il refusait de vivre selon la parole de Dieu. Il est descendu à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Les Philistins, ils étaient des gens qui ne connaissaient pas Dieu et c'était interdit de se marier avec des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'appartenaient au peuple d'Israël. Mais lui, il y allait et il a vu une femme et il lui a plu. Ses parents, tout naturellement, il lui dit, mais mon fils, tu connais la loi, on est dans le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il faut te marier avec une femme israélienne. Et elle dit, c'est celle-là que je veux. De la parole de Dieu, je n'ai rien à faire. Et c'est ça le malheur dans notre propre vie. lorsqu'on laisse la parole de Dieu de côté et on écoute nos propres désirs. Vous savez, tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est pour notre bonheur qu'ils y sont inscrits. Et malheureusement, aujourd'hui, dans ce monde, on ne fait que les choses qui font plaisir aux gens, pas à Dieu. Si Dieu il n'est pas content, on s'en fout. Dernièrement, on l'a vu chez les protestants, n'est-ce pas? Il y a des protestants qui ont béni les mariages gays. Comment peut-on faire ça? Dieu, il l'a interdit. Regardez dans Romains. Devons-nous aller avec le monde ou devons-nous sortir du monde? Romains chapitre 1, il est clair, le verset 26. Il y a tant de choses, car, verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et servi la créature au lieu du Créateur, et qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'usage naturel, une femme, c'est avec un homme. Alors, c'est femme et femme. C'est ça l'usage. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme, des choses infâmes et recevant à eux les salaires que méritait leur égarement. Dieu, il est clair. Ils essayent d'échanger ce que Dieu a dit dans la clarté. Dieu est amour. Dieu, il nous aime. Il nous commande d'aimer. Moi, j'aime mon frère. Il est chrétien et je l'aime et je me marie avec lui. Mais Dieu, il est contre ces choses-là. Et aujourd'hui, dans ce monde, on ne voit que ça. Hommes et femmes. On se demande pourquoi ce monde, c'est un monde perdant. Mais c'est à cause de ça. Car on n'obéit pas à la parole de Dieu. Et chaque fois qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, on tombe de plus en plus bas. Qui peut relever ce monde aujourd'hui? Il n'y a que Jésus-Christ. Il cherche la paix partout. Mais la paix, on la trouvera que si on observe. Tu seras à la tête et pas à la queue. Dieu, il nous dit, tu es un gagnant et pas un perdant. Pourquoi on vit des fois une vie chrétienne perdante? Parce qu'on n'observe pas la parole de Dieu. Parce qu'on s'éloigne de Dieu. On essaie de faire notre propre volonté. Mais mon fils, ne prends pas cette femme. Tu sais qu'il faut que tu te maries avec une femme israélienne. C'est Dieu qui a commandé ça. Non, je le veux. Je le veux. Je vous l'ai dit souvent, si on va en enfer, c'est parce que nous l'avons voulu. Dieu, il nous dit, il nous a préparé le paradis, et nous lui disons, je ne veux pas aller au paradis, je veux aller à l'enfer. Dieu est amour, comment peut-il permettre que des gens ils aillent en enfer? Mais on a la liberté, on a le libre choix. Dieu il n'est pas un despote, ce n'est pas un dictateur qui nous prend par le collet et nous dit « Tu dois me croire, tu dois faire ce que moi je veux. » Non, lui il s'est donné par amour et il désire que les gens, il se donne à Dieu par amour. C'est ça. Et lui, c'était un perdant parce qu'il vivait, il refusait de vivre selon les commandements de Dieu. Et c'était un perdant, Samson. Hein? Et vous savez, hein, une variante aujourd'hui, comme hein, lorsqu'il refuse d'obéir à la parole de Dieu, une variante courante de la désobéissance est l'obéissance partielle. J'obéis seulement une partie. Donc, il croit être obéissant entièrement. Ce n'est pas ça. Dieu, il veut une obéissance complète. Parce que lui, il est complet. Lui, il a tout fait. Jésus, lorsqu'il est mort, il a versé tout son sang pour nous. Lorsque le centurion il a enfoncé la lance, il n'y avait plus de sang. Il a tout donné. Et pas à moitié. Nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église ou un pied avec Dieu. Nous devons être entièrement. C'est ça que Dieu nous demande. Car si nous ne le faisons pas, nous sommes perdants. Nous perdons quelque chose. Nous perdons quelque chose. Samson, il était perdant. Autre chose, toujours au chapitre 14, regardez. Le verset 12 à 13. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Et ils lui dirent, « Propose-nous ton énigme. » L'énigme, vous le connaissez, hein? C'est fameux, cette énigme qu'il a posée. On va le lire au verset 14. Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Ici, Samson, il était perdant. Pourquoi? Parce qu'il convoitait les richesses matérielles. Il leur a posé une énigme juste pour gagner des richesses matérielles. Juste pour gagner des richesses matérielles. Les 30 manteaux. Qu'il a perdu l'énigme à cause, parce qu'il a révélé l'énigme à sa compagne. Sa compagne, il l'a révélé à ses amis. Hein? Mais pour payer sa dette, il a dû tuer pour rien 30 personnes et leur voler leur manteau. Mais ici, il est perdant parce qu'il a convoité, hein, il a convoité les richesses matérielles. L'encensé, vous connaissez tous l'encensé, la parabole de l'encensé que le Seigneur a racontée. Plein de richesses, il construisait des bâtiments pour y mettre ses récoltes et tout ça. Et il disait, mon âme, repose-toi, tu as tant de richesses, tu es en place. Et Dieu, il a dit, encensé, c'est nous-mêmes, ton âme doit être. À quoi servira-t-il d'avoir les richesses si on n'a pas Dieu? Parce que la vraie richesse, c'est Dieu. La vraie richesse, c'est Dieu. Et les choses matérielles, vous savez, ce que nous avons, tout ce que nous avons, ça va partir en fumée, hein? Ça va partir en fumée. Et où nous allons, nous ne pouvons rien emporter. Si nous pouvons seulement emporter ce que nous avons, nous sentirons bien nos enfants crier. Hein? On n'a rien. Job, vous en souvenez ce qu'il a dit, « Dieu nous a donné et Dieu nous a retiré. Loué soit le nom du Seigneur. » Tout ce que nous avons, ça va partir en fumée. À quoi sert-il posséder tant de choses si on n'a pas l'assurance du salut dans notre propre cœur? Et aujourd'hui, on vit dans un monde matériel. matérialiste. Vous disiez, mais je ne suis pas matériel, moi. Vous en apercevez les jours que vous déménagez, hein, les choses que vous avez. Pour chaque chose qu'on voit, on arrive à acheter des choses dont on n'a pas, absolument pas besoin. Et on engrange la maison. Les richesses matérielles ne nous apportent rien. Et ça, c'était Samson. Et ça nous concerne aussi. Nous pouvons être perdants. Comment ? Ben, en ne priant pas. On est perdant. En ayant un esprit mauvais. Prier que pour une vengeance personnelle. Ou sinon, en refusant de vivre selon la parole de Dieu. Nous sommes des perdants. Ou en convoitant des richesses matérielles. Voilà un chrétien perdant. Et encore une fois, le Seigneur lui a dit, je ne veux pas que tu sois à la queue. Je veux que tu sois à la tête. Nous sommes des rois. Nous serons assis à la droite de Dieu. Je ne sais pas si vous y réfléchissez des fois. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu. Si seulement nous avions plus profond de nous-mêmes cette pensée, beaucoup de choses iront mieux. Voilà un chrétien perdant. Je vais vous montrer un chrétien gagnant. Gagnant mais perdant aux yeux du monde. C'est un peu la petite histoire que nous a racontée Alex, hein, qu'il croyait être dans un mauvais endroit, mais pour Dieu c'est dans un bon endroit. Et cette personne, c'est Joseph. On connaît tous l'histoire de Joseph, n'est-ce pas, hein? On voit au verset Genèse 37. Genèse 37. Vous connaissez un peu tous son histoire, hein, à Joseph. C'était le fils de Jacob qu'il a eu dans sa vieillesse. Jacob, il aimait, c'était le fils que Jacob aimait. Hein? Il faisait tout pour la gloire de son père. Il écoutait son père, il faisait sa volonté. Voilà pourquoi c'est aussi une image, hein, de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et bien sûr, ses frères le haïssaient. Le haïssaient. Et c'est pareil dans nos familles, hein? Lorsqu'il y en a qui ne font pas la volonté de papa et maman, et il y en a un qui l'a fait, qu'il est toujours un, hein, c'est ce que je dis, il est mal vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Joseph, vous savez qu'il a eu un rêve, hein, et c'est Dieu, il lui a révélé la signification de ce rêve, et il a dit, vous allez m'adorer, et tout ça. Alors la jalousie s'est installée, et ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Et au verset, le chapitre 37, le verset 8, hein, il nous est dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Parce que c'est Dieu qui lui a révélé ces choses-là. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils l'ont vendu en esclave. Et l'ont, à travers un long voyage, il s'est retrouvé en Égypte. Et en Égypte, il s'est trouvé dans un pays qui ne connaissait pas Dieu. C'est un peu dans le monde, nous, dans le monde. Dans le monde, on est dans un monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne vit pas selon les lois de Dieu, qui ne vit pas selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus il nous a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Et lui, il s'est trouvé là et il a vécu les choses que nous vivons aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous encore moins. Mais tous nos frères et sœurs dans les pays persécutés, ils sont traités ainsi parce qu'ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas de Dieu. Et donc, il persécute tous ceux qui suivent Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur il nous a dit, si vous m'acceptez, je ne vous promets pas une vie agréable, une vie exempte de toute souffrance. Mais ils m'ont haï, ils vous haïront aussi, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais soyez tranquilles, je suis avec vous. Et dans la vie de Joseph, on l'a vu constamment. Il était esclave. On pouvait croire qu'en prison où il était malheureux. Non, tout était dirigé pour, ce, pour la gloire de Dieu et pour qu'il puisse être élevé. Parce que Dieu était avec lui. On peut être seul, hein, encore une fois, mais non dans la solitude. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est constamment auprès de nous. Il était dans un pays où personne ne connaissait Dieu. C'était en Égypte. L'Égypte, dans la Bible, ça représente le monde. Le monde. Un monde où Dieu, il n'y est pas. Un monde où il y a plein d'autres dieux, mais sauf le seul et unique vrai Dieu. Hein ? C'est, vous savez, ce n'est pas les circonstances de notre vie qui déterminent les succès, mais c'est nous-mêmes. C'est la façon dont nous nous comportons. Pas les circonstances. Les circonstances, elles passent. Mais la façon dont nous les vivons, ça c'est autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Pour que nous puissions, en l'écoutant, en nous laissant diriger par lui, nous puissions vivre une vie chrétienne comme il faut. Pas rester des enfants de Dieu, mais devenir des hommes mûrs. Pour que nous puissions aller apporter cette bonne nouvelle. Tout autour de nous, il y a des gens qui encore ne connaissent pas le Seigneur. Dans votre travail, n'évangélisez pas, ne témoignez pas dans votre travail parce que c'est interdit. Mais Paul, il dit à Timothée, à chaque occasion, cueille chaque occasion pour parler de Christ. Car nous sommes là pour apporter ces témoignages. Et lui, il était dans un pays où il ne connaissait pas. Lorsqu'il était en prison, Dieu il l'a utilisé, il s'est fait bien voir par le chef de la prison. Et il l'a mis à la direction des prisonniers. Voilà, toutes ces choses-là. Si on est du côté de Dieu, on est un gagnant. On est un gagnant. Si on observe les commandements de Dieu, on est des gagnants. Et c'est ça que le Seigneur, il désire pour chacun de nous. J'ai l'avenir pour nous, c'est que le bonheur. Dieu a fait toutes choses bonnes pour nous qui sommes ses enfants. Un peu comme nous. Si nous en avions la possibilité, avec nos enfants, n'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu fait pour nous. Autre chose qu'il faisait un gagnant de Joseph, c'est qu'il a fait face à la tentation. Il a fait face à la tentation. Il s'est trouvé dans la maison d'un grand homme d'affaires, en Égypte, Potiphar. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il dirigeait tout le monde, sa maison, il prospérait, mais il y avait la femme. La Bible le dit, Joseph, il était beau. Et en plus, avec la sagesse qu'il avait, la connaissance, voilà, il avait la femme de Potiphar qui l'a posé les yeux dessus. Voilà, il a essayé de l'amener au lit. Mais Joseph, il a dit, comment est-ce que pourrais-je faire un péché? Comment pourrais-je pécher contre Dieu et contre mon maître qui m'a tout donné? Je ne peux pas. Il a résisté à la tentation. Pourquoi il a refusé à cette tentation? Parce qu'il était un gagnant. Parce qu'il était du côté de Dieu. Comme cet esclave qui, avec Naaman, là, c'est exactement pareil. Elle était esclave, mais elle avait Dieu avec lui. Et lorsqu'il a su que son maître, bon, il l'aimait, il était son ennemi, c'est elle qui le tenait en esclave. Et pourtant, lorsqu'il a su que, voilà, elle est intervenue. Comment est-ce que je pourrais commettre un si grand péché? Il a pris, comme on dit, c'est clic, c'est clap, il est parti. Mais la femme, il a retiré son vêtement. Mais il est resté fidèle. C'est un gagnant. Hein? Et son intégrité vis-à-vis de Dieu, Dieu, il lui a donné la récompense. À chacun de nous, si nous sommes bien, si nous suivons les commandements de Dieu, il y a une récompense. Qu'est-ce qu'il est devenu, Joseph? Il est parti de rien. Il est devenu le sauveur du monde. Hein? Les sauveurs du monde. Pourquoi vous dites les sauveurs du monde? Parce que Dieu étant avec lui, il lui a donné ce rêve où il avait les vaches maigres, les vaches grosses, tout ça. Il a tout organisé. Et le roi, il lui a proposé au roi ce plan. Et le roi, il a pris, il a dit, bon, gère mes affaires. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Voilà. Cette année de grande récolte, il a pris toutes ces récoltes et les a gardées. Les années de maigres récoltes, où il n'avait pas à manger, les gens, ils se tournaient vers Joseph. Et vous savez, à un certain moment, on a su, après, dans l'histoire, que le pharaon, il était, tout l'Égypte, il était son esclave. Il était possesseur de toutes les terres d'Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph, il y est passé dessus. C'est Joseph qui, des gens, ils allaient lui demander du grain, et il a dit, qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai un terrain, j'ai des chèvres et tout ça, donne ça et je te donne à manger. Et le pharaon, il est devenu le patron de tout l'Égypte. Voilà pourquoi il nous est dit que Joseph, il est devenu le sauveur du monde. Comment il est devenu sauveur du monde? Parce que Dieu l'a dirigé. Ses frères, ils étaient dans le besoin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus en Égypte lui demander à manger. Il s'est fait reconnaître par la suite. Et Joseph leur a dit, c'est moi Joseph, c'est celui que vous avez vendu. Alors ils ont eu un peu peur. Et il a dit, mais ne vous inquiétez pas, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu, il a retourné cela pour vous sauver la vie. Et s'ils ont gardé la vie, c'est à cause de Joseph. Parce que dans les plans de Dieu, tout est établi, vous savez. On peut se dire, oui, je passe par des moments difficiles. Mais Dieu, s'il nous fait passer par là, c'est parce qu'il y a une raison, il y a un but à accomplir. C'est ça, un chrétien gagnant. On est gagnant si on suit le Seigneur. Et c'est là que nous devons nous diriger. Être à la tête, pas à la queue. Être un gagnant, pas un perdant. Voilà pourquoi Paul, il a dit, j'aurais voulu vous donner de la nourriture solide, mais je ne peux pas. Vous êtes encore des bébés, vous êtes encore des enfants, vous ne pouvez pas mâcher. C'est un peu comme nos enfants. Un enfant qui vient au monde, on essaie de lui donner un sandwich. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de dents. Il faut lui donner du lait, les choses les plus. Mais pourtant, Paul dit, j'aurais voulu vous donner. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Paul ne voulait pas. Non, parce qu'il ne pouvait pas. Il n'y avait pas à eux cette croissance spirituelle qu'il faut. Voilà pourquoi c'est à nous de décider si nous sommes un gagnant ou un perdant. Nous pouvons être un gagnant parce que nous avons l'aide de notre Dieu à nous. Mais nous pouvons être un perdant parce que nous n'écoutons pas notre Dieu. Alors, c'est à chacun de nous de réfléchir et de se dire, suis-je un gagnant ou suis-je un perdant? Si je suis un gagnant, c'est parce que je suis du côté de Dieu. Mais si je suis perdant, c'est parce que je n'écoute pas ce que Dieu dit. Et Dieu, il désire qu'une chose, notre bonheur. Notre bonheur. Alors, à chacun de nous de réfléchir et de se poser ces questions-là. Que Dieu vous bénisse.
Amen.